Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
RMC.
GG, 7 et match.
Avec deux équipes qui vont se faire face, l'équipe Mourad et Flora Ghebaly, Mourad Boudjelal, Flora Ghebaly face à Antoine Dierks et Olivier Truchot sur l'idée de taxer les super profits. Il faut trouver de l'argent, il faut faire rentrer des milliards dans les caisses. Il y a des entreprises qui ont fait ce qu'on appelle des super profits. On parlait des énergéticiens. Ils sont notamment dans la bande de ceux qui se sont, et j'emploie l'expression à dessein parce qu'on l'a entendu même à l'Assemblée nationale, de ceux qui se sont gavés. Alors, faut-il les taxer, oui ou non? Oui pour Flora et Mourad, non pour Olivier et Antoine. Mon cher Mourad, tu vas nous expliquer pourquoi il faut les taxer. C'est parti.
Alors déjà, il faut comprendre ce que c'est les super profits. C'est les bénéfices extraordinaires qui sont réalisés par certaines entreprises. Ces bénéfices, ils sont encore dus au quoi qu'il en coûte du Covid en grande partie et à l'inflation. Donc c'est grâce à des aides d'État que les entreprises se sont vraiment déployées ces dernières années. Et ça fait 3 ans qu'il y a des bénéfices records. Pour vous donner les chiffres de 2023, c'est 146 milliards de bénéfices nets. Le problème, c'est pas que les entreprises françaises fassent des profits, c'est formidable. Le problème, c'est qu'elles reversent en moyenne 2/3 à leurs actionnaires et qu'elles réinvestissent 1/3 dans l'entreprise ou l'innovation. Les gens qui ont un argument contre, ils disent que ça va faire baisser l'innovation. Le problème, c'est qu'on est en période de déficit public et que le gouvernement se pose la question de dérembourser des médicaments. Est-ce que vous imaginez qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se soigner, à qui on va retirer des remboursements de médicaments? Par contre, on donne encore 2/3 des bénéfices des entreprises aux actionnaires. La bonne, pour moi, mesure, ce serait d'investir 1/3 dans l'innovation, de donner 1/3 à l'État, et de donner 1/3 aux actionnaires. Ça laisserait quand même des dizaines et des dizaines de milliards aux actionnaires. Je crois que ce serait suffisant.
Réponse, Antoine.
On en parlait juste avant et j'avais interrogé Bruno Bonnel là-dessus. La question de la fiscalité est essentielle pour les entreprises. Et ce qui fait qu'un certain nombre d'entreprises, notamment industrielles, ne viennent pas s'implanter en France, c'est l'incertitude sur la fiscalité. Les taux bougent, c'est déjà très cher. Et là, débat formidable, nous allons taxer les super profits. Mais est-ce qu'on se rend compte des dégâts qu'on fait vis-à-vis des entreprises qui pourraient s'installer en France en leur disant « Attention les gars, hein, si vous réussissez bien et qu'il y a un peu plus de bénéfices que l'année précédente, l'État viendra vous le prendre. » Et donc en fait, je pense qu'on est complètement aveuglé par l'idéologie socialisante où communiste. En fait, on quasiment communiste, je suis d'accord, Mourad, tu fais bien de le dire, où on pense qu'en fait, on peut aller se servir sur l'argent privé comme ça. Moi, je dis une chose, fixons un taux clair sur les entreprises, c'est normal qu'ils participent. En revanche, arrêtons de penser que c'est de l'argent qu'on peut aller prendre dès qu'ils ont gagné un peu de bénéfices.
Oui, mais en fait, le problème, c'est que c'est de l'argent qui a été gagné grâce aux politiques d'aide de l'État, beaucoup, et grâce à l'inflation. Et en fait, aujourd'hui, la question, c'est pas est-ce qu'on peut aller se servir dans la poche des entreprises, pas du tout. La question...
Justement, puisqu'on parle de gros sous, permettez que je vous incite à envoyer coffre par SMS au 7-32-7. Vous avez 5 minutes devant vous. 5 minutes pour m'envoyer coffre par SMS au 7-32-7. Et c'est 50 000 euros si vous les gagnez. Ils ne sont pas taxés en
plus.
Ce
n'est pas des super profits.
Ce n'est pas des super profits. C'est un beau profit pour vous. C'est un beau coup de bol, mais c'est exonéré d'impôts. Donc vous m'envoyez coffre par SMS au 7-32-7. Vous inscrivez. Vendredi, si vous êtes tiré au sort dans les GG, vous gagnez soit les 2500 euros de la sélection, soit si on ouvre le coffre, une semaine de vacances dans un des campings Tikayan pour 6 personnes, ou bien les 50 000 euros. Faut pas vous priver, vous envoyez coffre par SMS au 7-32-16. Revenons au super profit, Mourad.
Je vais faire du en même temps, c'est peut-être mon côté macroniste qui ressort. Moi, je suis contre la taxation des super profits dans certains domaines. Les domaines qui créent de l'emploi, qui créent de l'impôt indirect ou direct à travers des actionnaires qui vont payer leurs impôts en France à travers les profits. Maintenant, là où je m'inscris en contre, pour la taxation des super-profits, c'est quand des entreprises bénéficient de biens publics. Ou alors, de biens sans concurrence. Je donne un exemple. Vinci, par exemple, ou un autre, le marché des autoroutes. Pour moi, les routes, c'est un bien public. C'est un marché sans concurrence. Est-ce normal qu'ils aient le même code de fiscalité qu'une entreprise qui est dans un marché concurrentiel? Non. Quelqu'un qui va exploiter la terre et qui va... Est-ce normal que de l'exploitation de la terre sur des biens indispensables à la vie, on ait la même fiscalité que celui qui va fabriquer, je ne sais pas, des voitures ou des chemises. Enfin, les voitures, c'est peut-être pas un exemple, qui va fabriquer du textile. Voilà. Là-dessus, moi, je suis pour une fiscalité beaucoup plus forte. Je donne dernier exemple. Pendant le Covid, je rejoins Flora, il y a des entreprises qui ont vu leur capitalisation, en tout cas le cours de leur action, multiplié par deux ou trois de façon tout à fait fictive. Uniquement, c'était les rapaces du Covid. C'était les rapaces de l'épidémie. Et ils se sont gavés sur l'épidémie. Est-ce normal qu'il n'ait pas eu, par rapport au N-1, l'N-1, c'est le résultat de l'année précédente avec ces super profits qui ont été faits sur le Covid, est-ce normal qu'il n'ait pas eu une surimposition? Non, non. Et j'ai un quatrième exemple pour vous. Il n'y a pas si longtemps, pendant une émission, je vais vous faire une confidence. Pendant l'émission, j'ai gagné 15 000 euros, sans rien faire. Uniquement en vérifiant un truc sur mon portable, sur des cours de
donc
bourse.
Donc en fait, pendant l'émission, tu fais autre chose?
Voilà, sur un cours de bourse. Est-ce normal que ces profits-là aient une fiscalité inférieure à celui qui s'est levé le matin, qui va créer de l'emploi, qui va travailler, et malheureusement, qui va payer beaucoup plus d'impôts que celui qui ne fout rien, que le trader?
Mais en fait, en préparant le sujet, j'ai regardé, et en fait, le débat sur les super-profits, il existe depuis le 19e siècle.
Ouais.
Karl Marx avait même, à l'époque, théorisé, effectivement, les super-profits. En fait, les super-profits, c'est quoi? C'est un effet d'aubaine. C'est-à-dire qu'on regarde les profits...
Les profits exceptionnels liés à des situations exceptionnelles.
On regarde les profits sur plusieurs années d'une entreprise, et puis tout d'un coup, il y a une année qui devient exceptionnelle parce que l'entreprise profite de circonstances extérieures, et finalement, n'a pas fait grand-chose de plus pour avoir ces super-profits. Voilà, c'est ça, un super-profit. Alors, oui, les taxer, mais... le problème, c'est que ça va... Alors, sur le principe, pourquoi pas, sauf que ça va créer de l'inégalité fiscale, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont être taxées et pas d'autres.
Il y a des inégalités donc, aussi en matière concurrentielle.
Donc, ça, je ne vois pas bien comment ça passe. Deuxièmement, il y a quand même la plupart de ces grandes entreprises qu'on cite font leurs profits essentiellement à l'étranger. C'est le cas notamment de Total et même de LVMH, qui sont des entreprises mondiales. Donc, tu taxes quoi? Tu taxes à quel moment? Donc, d'ailleurs, ce que disait Bruno Le Maire assez justement, c'est que ce genre de taxe ne peut fonctionner que si c'est à l'échelle internationale. Et puis, la troisième chose, et c'est une économiste qui le disait assez justement, c'est que forcément, cette taxe, l'entreprise va la répercuter. Elle ne va pas dire, ah bah, très bien, super, je mets ma taxe. Et donc, ça va être répercuté sur qui? Sur le consommateur. La taxe, à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui la paye.
Et
en général, c'est le client, le consommateur.
T'as pas totalement tort, et je suis même un peu d'accord avec toi. Parce que le problème, c'est que les marchés financiers, ils sont internationaux, et qu'aujourd'hui, pourquoi un actionnaire chinois ou n'importe quoi
mettrait de l'argent
dans une entreprise s'il n'a pas les mêmes profits qu'ailleurs. Donc ça peut faire perdre en action nos entreprises françaises et européennes. Donc à ce sujet, il y a deux réponses. La première, c'est que la taxe, elle doit être européenne et on doit faire bloc au même titre que les Américains font bloc et que les Chinois font bloc. Aujourd'hui, il y a quand même un problème géographique. C'est que nous, on est plein de petits pays seuls dans notre coin, alors qu'on devrait faire jouer notre force continentale. La deuxième chose, c'est que je ne parle pas forcément de taxer pour combler le déficit de l'État ou faire rentrer de l'argent dans les caisses.
Oui, parce que d'ailleurs, ce n'est pas très moral. L'État veut taxer des entreprises qui sont bien gérées.
Je parle des combats qui sont devant nous. Les combats qui sont devant nous, c'est la transition écologique. Il y a un papier qui est sorti ce matin qui montre que les assureurs, à force d'assurer la transition et les chocs que ça comporte, ils ne vont pas pouvoir tenir sur le long terme. Donc on le sait, tous les rapports le disent, l'inaction climatique va nous coûter plus cher que l'action. Donc l'idée, c'est de dire par exemple à Total, qui met aujourd'hui 5 milliards sur les 20 milliards de dividendes dans le renouvelable, bah en fait il va falloir faire plus.
Oui, enfin, et
donc
c'est déjà
mais non, c'est pas beaucoup. La question, c'est comment
c'est
on accélère. Parce que pour deux raisons. La première, on va payer plus à ne pas le faire. Donc à la fin, ça va leur coûter plus cher. Et là, parce que c'est là qu'est l'argent. Et parce que c'est eux qui détruisent la planète. C'est eux qui sont responsables.
Mais donc,
on est responsable de ces actions.
Mais
la deuxième, c'est que dans les années
règles.
À venir, regardez les papiers sur l'assurance de la transition écologique. Et vous allez voir ce que c'est. Dans ton département, dans ta région, tous les sinistrés du Pas-de-Calais. Mmh. Allons regarder ce que c'est aujourd'hui les impacts de la transition écologique. Et tu verras pourquoi Total doit mettre l'argent sur la table.
Juste en placer une. Je vais vous donner un exemple. Vous allez tous être d'accord. Est-ce que vous trouvez normal que pendant la crise du Covid, Pfizer, qui nous a sorti un pseudo-vaccin financé par des centaines de millions d'euros d'argent public. Oui, quand je dis des centaines de millions d'euros, c'est peut-être des milliards. Et qu'à l'arrivée, quand ils trouvent ce pseudo-vaccin qui est juste, je ne sais pas, on ne sait pas ce qu'on nous a injecté.
Ça nous a permis de sortir du confinement.
Est-ce que vous trouvez normal que Pfizer ait fait des profits insensés sur la crise du Covid?
Et sans cette logique de profit, il n'y a plus d'innovation. Parce que si Pfizer n'avait pas pu vendre son vaccin...
Attends, je vais te retourner l'argument. C'est à cause de cette logique de profit que pendant la période du Covid, plutôt que tous les labos s'unissent, plutôt que toutes les intelligences de la planète s'unissent pour trouver un vaccin, on a uniquement utilisé cette situation pour créer des profits.
C'est pas la morale qui guide le monde, c'est le bénéfice. Pardon. Et dernier mot, peut-être, si quand une entreprise...
Même sur la santé humaine, oui.
Mourad, si quand une entreprise gagne de l'argent, l'État peut le prendre. Quand elle en perd, l'État rembourse? On peut pas faire ça.
Continue d'en parler, taxer les super profits.
C'est terminé déjà?
Oui ou non? Non, mais la discussion continue dans un instant.
C'est que
commencer. On verra où on en est, quelle équipe mène pour le moment. À tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules, toujours en direct du Salon de l'Industrie à Villepinte, le Salon Global Industrie jusqu'au 28 mars. On y parle technologie, on y parle innovation, on y parle relance de la capacité industrielle. Et pour ceux qui sont devant RMC Story, j'ai derrière moi un robot de 2,70 m réalisé par RS France, l'entreprise RS France qui est installée à Beauvais. RS France qui est distributeur de fournitures industrielles, outillages, composants électroniques, tests et mesures, et qui a des clients dans 50 pays. Encore une entreprise.
Attends, c'est quand même assez impressionnant ce qu'on voit, parce qu'il faut décrire pour ceux qui nous écoutent.
À ta place, Alain.
En fait, c'est Iron Man et en version géant.
2,70 m.
2,70 m. Mourad, ça fait un peu peur.
Il y a les mêmes à Disneyland.
Mais ils sont moins grands.
Ouais. Chapeau à RS France, parce que voilà, c'est encore une pépite industrielle française, c'est encore vers chez toi.
C'est les Hauts-de-France.
C'est les Hauts-de-France. C'est à Beauvais, je vous dis, 2500 marques présentes dans 50 pays implantés à travers le monde. Eux, leur siège est à Beauvais et c'est spécialisé dans l'outillage, le composant électronique, les tests et les mesures. Le robot d'RS France, 2,70 m derrière moi.
Une belle bête.
Une belle bête. Merci, monsieur. Voilà, je serre la pogne. Un de ces jours, il faut mieux faire attention.
Oui.
Très impressionnant, mais il faut plus de femmes dans les métiers de l'industrie.
Eh ben,
je vois des femmes et des jeunes filles devant moi.
Ce robot.
Le robot, il n'a pas de genre, enfin, Flora. L'expression de genre du robot.
Merci à RS.
Je vois que des hommes autour de moi.
De nous avoir envoyé leur robot. On reprend notre discussion maintenant dans les GG, dans la team GG, à propos des super profits. Faut-il les taxer, oui ou non? Dans un instant, nous serons avec Loïc, un fidèle des GG qui est expert comptable. On va regarder où on en est dans la consultation. Faut-il taxer, oui ou non, les super profits? On est précisément à 74% de oui,
forcément.
Il faut taxer les super.
C'est quand même, notre fonds un peu cato, on n'aime pas les riches en France. On n'aime pas les gens qui riches.
Olivier, il y a 10% des Français qui ne mangent pas jusqu'à la fin du mois. Comment tu peux dire un truc pareil? Non, on est en train de dérembourser des médicaments pour des personnes qui souffrent à cause de leur mal-être au travail.
On les taxe déjà plus que partout dans le monde, nos entreprises.
Oui, bien sûr.
Et malgré ça, on arrive pas.
Il y a des domaines où c'est pas normal. Je vous parle d'un domaine que la recherche contre le cancer. Est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui pour que la recherche contre le cancer soit liée aux mêmes règles fiscales que le reste? Et on va même aller plus loin. Au niveau des super profits, l'intérêt aujourd'hui, c'est de ne pas trouver contre le cancer. Parce que le cancer représente une telle manne financière pour des super profits que si demain on trouvait peut-être le remède magique, ça ferait perdre beaucoup d'argent.
D'ailleurs, on a
super
dans la médecine esthétique.
On n'a pas le plus haut niveau de dépenses publiques au monde. On est un des pays qui a le plus haut niveau de dépenses publiques au monde.
Mais en fait,
et pour
ça
autant,
veut rien
on n'arrive pas à financer notre dépense publique. Pour
parce
autant, des gens ne mangent pas, etc. Je pense que le problème, c'est pas
c'est
de prendre encore plus d'impôts. Le problème, c'est de mieux utiliser l'argent qu'on prend déjà au privé. Enfin, voilà.
D'accord,
vous êtes toujours sur. Il n'y a pas assez de moyens.
On va passer par le compte de 16. Nous, on est pour donner de la morale à l'argent.
Non,
mais il y a
Tu sais, Olivier, Mourad, toi qui adore la croissance et le PIB et qui en parle tout le temps.
Ça permet de construire des hôpitaux, la croissance.
Non, mais oui, mais en fait, d'accord. Mais en fait, si demain il y a une catastrophe naturelle comme les inondations dans le Pas-de-Calais, ça fait monter le PIB. Pourquoi ça fait monter le PIB? Parce que ça crée de l'économie et ça crée un cycle de croissance.
Et la guerre, ça fait monter.
La guerre, ça fait monter le PIB.
Il y aura des super profits pendant la guerre.
On continue avec des indicateurs à dollar comme ça et on conduit l'humanité à sa perte. Mais allons-y, vu qu'on est déjà sur la route. Sinon, il y a une autre solution, et c'est ce que les acteurs du Salon de l'Industrie font autour de nous.
Ah bon,
cette solution, c'est d'investir massivement dans la transition écologique énergétique.
Il y a 15 jours,
j'étais invité à intervenir dans un sommet sur les énergies renouvelables qui s'appelait le Power Earth Summit. Il y avait même Barack Obama qui était là dans ce sommet.
Quelle chance.
Que disaient les industriels de ce sommet, c'était s'il vous plaît l'État, aidez-nous à transformer le modèle énergétique européen, s'il vous plaît. C'est les entreprises elles-mêmes qui demandaient à l'État d'être plus interventionniste. Donc arrêtez deux secondes de nous expliquer que le PIB, c'est le meilleur indicateur qui soit et que c'est avec un PIB qui montre que le bien-être des gens va grandir.
Parce qu'ils veulent juste qu'on leur fiche la paix, les entrepreneurs.
Nous sommes avec Loïc, qui est expert comptable dans le Val-de-Marne. Bonjour Loïc.
Bonjour Loïc. Salut les GG, salut à tous.
Alors Loïc, faut-il, oui ou non, taxer les super-profits?
Alors les super-profits, lorsqu'ils sont issus de la spéculation financière, qui ne sont pas corrélés à l'économie d'une réalité, c'est-à-dire faire accoucher des enfants, soigner, sécuriser, créer des produits, créer des téléphones, livrer des téléphones, tout ce qui n'est pas lié à l'économie réelle et qui marche sur une forme de système de spéculation, doit être surtaxé, car comme l'a dit Mourad, c'est 4%, c'est 4 fois plus que le PIB de la planète Terre, et pourtant, c'est l'endroit qui est le moins taxé du monde, car vous mondialisez. Mmh. Alors à ça, c'est pas tout. Il faut aller sur un autre point.
Dans ce cas-là, c'est plus taxé les dividendes.
Il faut fiscaliser l'humain par rapport à l'endroit où il vit. Donc déjà, la spéculation financière, elle doit être taxée au même titre que l'économie réelle. Pourquoi l'artisan paye plus d'impôts que quelqu'un qui fait la spéculation sur la vente de coton, premièrement? Et deuxièmement, il faut le fiscaliser par rapport à l'endroit qu'il vit. Fini la fiscalité, parce que j'ai mis ça dans les îles Caïmans, je suis taxé au niveau des îles Caïmans. Non, l'Amérique, c'est un pays ultra-communiste, les États-Unis, c'est ce qu'ils font. Et il n'y a pas d'emmerde.
Voilà.
Même les patrons GAFA disent « taxez-nous plus, on n'est pas assez taxé. Vous avez fait trop de cadeaux. » Macron a fait trop de cadeaux aux ultra riches.
Ouais. Et pour compléter ce que vous dites, vous savez que vous pouvez acheter... Vous savez que vous pouvez acheter la production mondiale d'aluminium en un micro de seconde et la revendre dans la même micro de seconde et avoir une taxation limitée alors que vous n'avez créé aucun emploi.
C'était la taxe Tobin, tu te souviens?
Mais on est rare payé à l'avoir appliqué.
Je peux parler à l'auditeur, parce qu'il a fini là maintenant. Mais là, vous parlez d'autre chose. Vous ne parlez pas des taxes de super profit, vous parlez des dividendes. Oui. Effectivement, pourquoi pas taxer davantage les dividendes?
Dans les dividendes d'une grande entreprise, vous me dites qu'il n'y a aucune spéculation financière sur les marchés qu'ils réalisent?
Si, bien sûr que si.
Si, bien sûr, mais vous pouvez taxer le produit de ces dividendes.
Non, ce dont on parle, Olivier...
Les entreprises à investir dans le circuit économique.
Ce dont on parle, Olivier, c'est parmi les bénéfices, qu'est-ce qu'on donne aux actionnaires qui sont donc des dividendes et qu'est-ce qu'on investit massivement. Moi, qu'on l'investisse dans les caisses de l'État ou qu'on l'investisse dans la transition écologique, ça me va. Ou dans le care, le bien-être de la société, les hôpitaux, l'ééducation nationale.
Le problème, c'est que l'État gère mal. Donc moi, je ne fais pas confiance par définition à l'État pour gérer notre argent.
D'accord.
L'État est...
On peut leur imposer de réinvestir.
On est le pays qui verse le plus d'impôts et on s'aperçoit que malgré ça, on a un déficit et une dette qui n'a jamais été aussi importante. Le jour où l'État fera la démonstration qu'il gère bien notre argent, je suis d'accord, on pourra lui confier la vie des entreprises.
Aujourd'hui, tu préfères BlackRock qui travaille pour les retraités en Floride.
Olivier, c'est le cœur de mon activité professionnelle, la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Je croise des personnes qui sont à des postes dans des grands groupes du CAC 40 de directeurs, directrices RSE depuis 20-25 ans. Ça fait depuis les années 2000 qu'il y a des directeurs RSE. Et qu'est-ce qui vous explique de 2000 à 2024 leurs budgets n'ont jamais augmenté. En fait, le problème, c'est que si on se base sur le bon vouloir des entreprises, on n'arrivera jamais nulle part. Parce qu'une entreprise, on ne lui demande pas la morale.
Les entreprises, s'ils font du RSE, c'est parce que c'est une niche fiscale.
Comme vous l'avez dit très justement, on ne demande pas à un chef d'entreprise d'être dans la morale et dans la politique. Il faut que chacun fasse son travail. Donc les politiques, ils font des lois pour faire de la redistribution et les entreprises, elles font ce qu'on leur a demandé.
Si les entreprises font du RSE, c'est parce que c'est une niche fiscale. Tu enlèves la niche fiscale, ils n'en feront plus.
Moi, j'ai compris que vous vouliez à tout prix taxer les dividendes et la spéculation. Oui. Mais finalement, les
dividendes... On veut mettre de la morale à l'argent.
Mais les dividendes et la spéculation, finalement, c'est un paquet de Français qui ont mis leur économie en bourse pour se préparer une retraite. C'est un paquet de Français qui, en mettant cet argent dans des entreprises, permettent de créer une nouvelle usine et donc de nouveaux emplois.
Antoine, la majorité des bénéfices, c'est des retraités en Floride.
Mais non.
Rien n'empêche de faire des fonds de retraite française.
Vous opposez.
Ça marcherait mieux que nos systèmes de retraite.
Ou des patrons eux-mêmes qui, en plus d'avoir un salaire en millions, ont des actions.
Laissez Antoine finir.
J'ai perdu.
Mais il arrête pas de finir. Mais
ce que vous voulez faire, en fait, c'est empêcher l'investissement dans notre pays en quasi criminalisant le seul fait d'investir parce qu'on va toucher des dividendes. Si vous empêchez de toucher des dividendes, si vous rendez les dividendes en France moins intéressants qu'ailleurs, l'argent de l'investissement partira dans d'autres pays et vous n'aurez rien gagné.
Et Antoine, je vais te faire une métaphore. On fait la différence entre investissement et dépenses. Mm-hmm. Ce qu'on veut, c'est favoriser les investissements, mais par contre, ne pas favoriser les dépenses. Quelque part, ce sera un petit peu. C'est la métaphore que vous employez.
La différence, c'est qu'aujourd'hui,
il y a de l'argent qui crée de l'emploi, qui crée des richesses pour la planète et qui crée de la morale à travers l'écologie. On est pour qu'elle n'ait pas la même fiscalité, pour que l'argent qui crée uniquement des résidences de luxe pour des retraités en Floride. C'est tout.
Et l'écologie, c'est pas une affaire de morale, c'est une affaire de survie. Hein. Donc, en fait, on va se calmer. Et l'éducation des enfants, c'est pas une affaire de morale, c'est une question de survie.
Mais
l'hôpital, c'est pas une question de morale.
L'économie, c'est pas une question de morale.
Non, c'est une question politique.
Oui, mais le problème, c'est
le rôle du politique, contrairement au rôle du chef d'entreprise.
Vous voyez pas dans l'angle moral.
Mais qui te fait la morale ici?
Ah, bah si, Sandrine Rousseau.
Qui te fait la morale?
Sandrine Rousseau, on écoute, on a
pas de problème. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Mais pourquoi tu me parles? Qui a parlé de Sandrine Rousseau? Elle s'est exprimée sur cette question ces derniers jours?
Ah, bah oui, elle s'est exprimée là-dessus, bien sûr.
C'est pas la question de Sandrine Rousseau. La question, c'est que le coût de l'inaction, il va être sur nos impôts. Donc c'est encore les Français qui vont payer le fait que les entreprises n'ont pas investi. Les mêmes entreprises qui font des super profits grâce à quoi ? Aujourd'hui, quand Bruno Le Maire il nous parle de déficit, il dit c'est la fin de la récré, c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il donne de l'argent.
C'est la fin du quoi qu'il nous en coûte.
Il donne de l'argent aux entreprises et il le rembourse en retirant les remboursements de médicaments aux Français les plus précaires. C'est ça l'économie selon Bruno Le Maire.
C'est pas les entreprises qui font des gros des bénéfices, des gros dividendes, sont pas celles qui ont touché l'argent du Covid, etc. Vous fondez tout. C'est-à-dire que l'État a sauvé beaucoup de petites PME fragiles, etc. Mais l'État a pas sauvé Total, l'État a pas sauvé LVMH.
Total n'a pas besoin de l'État. Hein.
Voilà.
C'est des entreprises qui se portent très
qui
bien sur l'État.
Très bien et qui payent déjà beaucoup d'impôts.
C'est
marrant, c'est que tu parles de protectionnisme. Aux États-Unis, tu as un protectionnisme fiscal. C'est-à-dire que quand tu es citoyen américain, où que tu vives, tu payes des impôts pour les États-Unis.
Tu payes pas les mêmes impôts.
Je suis assez d'accord avec ça.
Leur modèle est plus socialiste.
Et même au-delà, si tu as une morale sur le dollar, le dollar, tu es contrôlé dans la planète entière. Quand tu vis le dollar, même si tu n'es pas américain.
C'est un peu plus facile quand c'est moins élevé que chez nous.
Je remercie Loïc d'avoir été avec nous. On va aller dans le Gard avec Mickaël, qui est infirmier libéral. Bonjour Mickaël.
Bonjour à tous.
Bonjour. Vous êtes pour la taxe ou pas, Mickaël?
Oui, totalement. Merci Mourad d'avoir mis l'accent sur tout ce qui se passe au niveau des gros labos, notamment pour ce qui est soigné le cancer. Je suis totalement d'accord avec vous. Moi, à mon petit niveau, c'est vrai que je vous donne un exemple précis. J'ai un patient avec un petit pansement qui nécessite pas beaucoup de matériel. Je mets pas la faute sur le médecin, mais quand j'ai trois énormes boîtes à 100 euros pièce qui me sont livrées chez le patient avec dedans des ciseaux, des scalpels, des compresses, qui s'en met plein les fouilles, c'est le labo qui vend son bac à la pharmacie. C'est pas grand chose, mais multiplié par le nombre de patients, multiplié par le nombre de plaies, c'est ahurissant quand on pense que l'économie.
C'est comme quand tu as besoin de deux Doliprane et qu'on te vend une boîte de vin.
quand j'entends que l'économie n'a pas de morale, excusez-moi, mais si, dans le monde dans lequel on vit, l'économie a une morale aujourd'hui parce que les gens n'acceptent plus de se faire spolier et à côté d'avoir des grandes entreprises qui dégagent des dividendes à n'en plus finir. Ça, c'était peut-être le monde d'avant, mais
oui,
aujourd'hui,
enfin, on est obligé de faire attention. Oui, mais c'est de l'emploi aussi, ces entreprises, c'est des familles, c'est des salariés, c'est de l'emploi.
Évidemment,
ces entreprises, elles ne font pas comme ça.
On parle de morale. Est-ce que la vente d'armes doit être fiscalisée comme les autres secteurs?
La France est fiscalisée, la vente d'armes. Ils vendent le plus d'armes au monde.
Bah oui. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de morale, on légaliserait le cannabis. Non, ça renflouerait les caisses.
On peut vivre sans entreprise, sans rien. On peut se tiermondiser encore davantage.
Pourquoi tu as toujours besoin d'aller dans les
excuses? On demande de l'équilibre aujourd'hui. Les gens demandent simplement de l'équilibre. Et en fait, ce qu'on montre, ce sont des chiffres ahurissants. Et à côté, on demande aux gens de se serrer la ceinture. Et ça, tout simplement, les gens ne l'acceptent pas.
Dans les domaines essentiels.
Pourquoi on demande de se serrer la ceinture? C'est parce qu'on gère mal notre argent.
Vous venez de dire que l'argent de la sécurité sociale était mal dépensé avec des boîtes hors de prix dont vous n'aviez pas besoin. Donc, qu'on se serre la ceinture là-dessus, il y a urgence. Moi je pense vraiment qu'on doit revoir la façon dont on distribue nos médicaments, etc.
Il y a un système américain, où tu as une boîte avec exactement le nombre de cachets dont tu as besoin.
Donc, il y a se serrer la ceinture et se serrer la ceinture.
Mais les labos ne sont pas d'accord.
Supprimer les dépenses superflues, c'est urgent. Ensuite, quand on aura supprimé les dépenses superflues, on pourra en reparler. Moi, je pense que dans les dépenses de santé, il y a beaucoup
tu commences
beaucoup
à passer dans notre camp, parce que là, tu vas toucher au super profit des laboratoires pharmaceutiques qui vont vendre leurs médicaments au détail et non plus en boîte.
Mais Mourad, toi, tu penses morale. Moi, je dis juste, si les lois changent et qu'on les empêche de vendre, ils vendront plus. Forcément, ce ne sera plus remboursé par la sécurité sociale.
C'est pas moral,
et donc, arrêtons de voir le truc.
Allez-y, Michael, pardon.
Pour moi, là, il y a morale et il y a bon sens aussi. Si vous voulez, quand je vois, pour vous donner encore un petit exemple, vous venez chez moi, j'ai des patients entre 90 et 95 ans de manière générale, vous allez dans leurs armoires, c'est pas 3 boîtes de Doliprane qu'elles auront trop, c'est des 50 et des 60 boîtes de Doliprane dans chaque armoire.
Mais c'est pas le problème des labos, c'est le problème de la
labos, ils sont pas d'accord pour qu'on change le système, c'est des super profits pour eux et ils veulent pas qu'on y touche.
Mais
comme toi,
il y a un pouvoir politique en France, que le pouvoir politique change ça et les labos vendront moins.
Il y a des lobbies aussi en France.
Ouais, tu vois des lobbies partout, Mourad, aujourd'hui.
Michael, infirmier libéral, qui est dans le camp de Flora Guébali.
Il faut que tu portes des lunettes déjà, donc il faut changer, il faut prendre au-dessus.
De toute façon, la majorité lobbies, est dans notre camp.
Oui, c'est sûr qu'on veut.
Vous savez,
taxer les autres, ça marche toujours. C'est très français.
Ouais. Vous savez où se trouve
la ici, celui qui a payé sûrement le plus d'impôts. Donc,
vous savez où se trouve
pour me dire ça.
La plus grosse masse d'argent disponible aujourd'hui qui permettrait de régler le déficit français. Dans l'épargne des Français, 6 000 milliards.
6 000 milliards,
oui. L'épargne des Français, c'est 6 000 milliards. C'est deux fois le montant de la dette nationale aujourd'hui, de la dette publique. C'est-à-dire que si les Français sortaient une partie de cet argent et le réinjectaient dans l'économie, on réglerait une partie
de
l'économie. En assurance vie, en livret A, en livret B.
Il faut d'abord un peu de sécurité sur l'avenir.
6 000 milliards. 6 000 milliards qui dorment.
C'est la cigale et la fourmi. Est-ce normal aujourd'hui de fiscaliser de la même façon, donc il est plus fiscalisé à l'arrivée, quelqu'un qui dépense 100% de ce qu'il gagne? Quelqu'un qui va dépenser une partie et thésauriser l'autre. Quelqu'un qui dépense 100% de ce qu'il gagne, il va être plus fiscalisé parce qu'il va payer la TVA sur sa consommation.
Donc Mourad, il demande à être plus imposé.
Mais Mourad, les revenus...
Je pense que celui qui dépense 100% de ce qu'il gagne, il doit avoir un avoir fiscal.
Je demande à ce qu'en France, on gagne de son travail et pas de son héritage.
Mais pourtant, je suis mal placé pour en parler parce que j'en profite.
C'est
mais
pas
je reconnais
compliqué.
Qu'il n'y a pas de morale.
Flora, tu crois que tu es hyper bien placé pour parler d'héritage? En fait, je veux dire, il y en a qui ont plus de chances dans la vie.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Je pense que tu viens d'une famille bien plus aisée que la mienne.
Ah bon? Qu'est-ce que t'en sais?
Je pense.
Tu as regardé mon patrimoine? Tu connais mon patrimoine? Mon patrimoine est public?
Ce que je veux te dire.
Qu'est-ce que t'en sais?
J'en sais rien.
Mais c'est pas un débat.
Donc dis-moi que tu es une petite pauvre. En fait.
Mais qu'est-ce que je suis en train de te dire? Est-ce que je suis en train de te parler de ma situation personnelle?
Tu dis.
Ce que je te dis, c'est que j'aimerais que les Français puissent gagner plus avec leur travail qu'avec leur héritage.
Tu dis que ceux qui héritent sont criminel
du haut de
arrogance et là
ton arrogance,
tu te drapes
pour arrogance.
Moi je pense que l'héritage est important.
Tu te venges pour ton hystérie de ce matin dès qu'on parle d'un sujet raciste, c'est ça?
J'ai pas besoin de me venger.
Tu me traites de petite bourgeoise. Tu me traites de petite bourgeoise. Tu sais, la France elle va mal parce qu'on accuse aux gens ce qu'ils sont et pas ce qu'ils disent. Donc en fait,
mais c'est toi qui viens d'accuser les gens qui héritent. Et donc, moi, je pense qu'on n'a pas de problème.
Oui, c'est ce que tu as dit. Il vaut mieux de son travail que de son héritage.
J'ai dit que j'aimerais qu'on gagne de son travail plus que de son héritage. Je crois qu'Olivier et Mourad étaient d'accord. Et je crois que c'est du bon sens. Et qu'aujourd'hui, on ne peut même pas accéder à un logement en tant que propriétaire en ville avec son salaire. Est-ce que c'est normal? On ne peut pas devenir propriétaire aujourd'hui en France quand on gagne sa vie si on n'a pas un capital.
À Paris, je suis d'accord.
Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que si vous n'héritez rien, vous ne pouvez pas devenir propriétaire.
C'est faux.
En ville, dans les centres-villes.
À Paris, tu ne parles que de Paris.
Dans les centres-villes, grandes villes.
Moi, je n'ai pas hérité. J'ai réussi avec mon travail à m'acheter un modeste appartement à Dunkerque.
Mais reconnais.
C'est qui, avec l'argent d'Éric Zemmour?
On est dans une société de rentier plus qu'une société de travail.
C'est quoi le rapport?
Ça, c'est vrai.
Mais non, mais je ne suis pas d'accord avec vous.
Idiot.
Je pense.
Non, il habite Dunkerque, c'est pas pareil.
Dunkerque pour 30 000 euros, t'as 600 mètres carrés.
Le démontre. On est quand même aujourd'hui, je ne sais plus qui le sait, c'est une étude très intéressante qui disait que aujourd'hui, pour réussir à s'élever socialement, il faut 70 ans de travail.
En fait,
dans les années 50, il fallait
15 ans. Un mot. On vient de dire que c'est pas bien d'épargner. On vient de dire que c'est pas bien d'hériter.
Personne n'a
dit que c'est pas bien. J'ai dit que c'est mieux de consommer.
Vous allez juste tuer. Vous tuez juste l'idée de la propriété individuelle. Et en fait, on a l'impression que celui qui épargne, celui qui hérite, est un malfaisant. Bah non, moi je défends l'épargne et je défends l'héritage.
J'ai dit que c'est mieux de consommer. Il faut que les Français consomment.
Non.
Il faut s'enlever cette angoisse de la retraite qui fait qu'on thésaurise beaucoup parce qu'il y a une vraie anxiété sur la retraite.
Ça, c'est parce
et ramener les gens à consommer et à avoir confiance. Et de cette consommation, on va tirer de la croissance.
Dans
un instant, pour nous rassurer sur la retraite, faut-il
taxer. De toute façon, vous avez plié le match parce que les Français sont d'accord avec vous. À 73%, ils veulent qu'on taxe les super profits.